Bonjour à tous, c'est une joie pour mon épouse et moi-même d'être avec vous ce matin. C'était une découverte pour nous de venir dans ce nouveau lieu de culte. Et bien sûr, on a des visages qui sont connus et je me réjouis de faire connaissance et de saluer tous ceux qui nous sont inconnus et qui sont, pour la plupart, je l'espère, frères et sœurs en Christ, c'est-à-dire on fait partie de la même famille. Les évangiles nous montrent que l'enseignement de Jésus était varié et revêtait plusieurs formes. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à 7, Jésus enseigne parfois de façon littérale ou bien par des principes, par des exemples, des illustrations tirées de la nature ou d'autres faits de la vie. Les gestes et les actes de Jésus sont aussi une forme d'enseignement qui nous parle. Et puis, vous le savez, dans les évangiles, il y a des paraboles. Les paraboles, ce sont de courts récits allégoriques, symboliques, de caractère familier, sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Jésus a souvent employé les paraboles pour enseigner. Le chapitre 13 de Matthieu en particulier donne toute une série de paraboles et une parmi lesquelles, parmi elles sont bien connues, par exemple la parabole du semeur. L'évangile de Luc nous parle de l'histoire du fils perdu et retrouvé qui est aussi une parabole. Il existe même des paraboles dans l'Ancien Testament et je ne sais pas si vous êtes arrivé dans votre lecture de la Bible de lire l'histoire des arbres qui demandaient un roi. Vous allez trouver ça, c'est intéressant, c'est un beau récit que nous trouvons dans Juges chapitre 9. Alors ce matin, c'est une des paraboles de Jésus que j'aimerais méditer et lire avec vous. Elle se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et nous lirons là les versets 9 à 14. Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14. C'est donc Jésus qui parle. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le motif pour lequel Jésus raconte cette parabole est clair, c'est dit dans le texte. Il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Et pour aboutir à cette conclusion, Jésus nous présente deux personnages. L'un est pharisien, l'autre est publicain. Et ils sont les deux très bien parce qu'ils montent les deux au temple pour prier. Peut-être que par rapport à l'enseignement de Jésus, vous vous dites « Ouf, c'est peut-être pas pour moi ce matin parce que je ne suis pas persuadé que je suis juste. » Mais peut-être qu'il faut un peu réfléchir et on va examiner ensemble ces deux personnages. Le pharisien, c'était un membre de l'une des trois parties juives, les deux autres étant les Sadducéens et les Esséniens. Et les pharisiens étaient les plus stricts dans l'application de la loi de Moïse, dans les commandements et aussi dans la tradition juive. Paul lui-même, avant de connaître Jésus-Christ, faisait partie de cette secte des pharisiens. Il dit lui-même, quand il est devant le roi Agrippa, en parlant des Juifs, « Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » Pharisien signifie « séparé ». Et il s'appelait « séparé » parce qu'il voulait se séparer de tout ce qui n'était pas conforme à la loi. Ils étaient aussi séparés des petites gens du peuple qu'ils regardaient comme impurs et qu'ils méprisaient. Pourtant, j'en suis convaincu, c'étaient certainement des gens très sincères, avec un désir profond de plaire à Dieu. La preuve, c'est que le pharisien prend le chemin pour monter au temple et prier. C'est louable. Beaucoup de pharisiens, parce qu'ils avaient une connaissance approfondie de l'Ancien Testament, se faisaient appeler maître, c'est-à-dire, comme on le voit dans l'Évangile, rabbi. Un homme a écrit ceci, « Le pharisien est un homme qui croit en Dieu » et qui croit que Dieu est content de lui. Quelqu'un a imaginé le scénario suivant. C'est un couple qui enseigne les enfants, je crois, et qui a imaginé l'histoire de ce pharisien. Alors, pour être vraiment dans le contexte, ils l'appelleront Rabbi Jacob. Rabbi Jacob est un homme connu, très connu dans tout Jérusalem. C'est un pharisien qui a étudié la parole de Dieu pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Au cours de ses nombreuses années d'études, il a appris les commandements du Seigneur par cœur. Il pourrait réciter des livres entiers de l'Ancien Testament. C'est vraiment un érudit dans la loi de Dieu. Rabbi Jacob, ce jour-là, regarde par la fenêtre. Il est presque 3 heures de l'après-midi. C'est l'heure de se rendre au temple, car chaque jour depuis des années et des années, Rabbi Jacob se rend au temple pour prier. Oh, jamais il n'a manqué une heure de la prière. C'est un homme religieux, un homme qui accorde énormément d'importance à ses actes religieux. Rabbi Jacob sort sur le pas de sa porte. Oh, bonjour Rabbi Jacob, comme vous êtes beau aujourd'hui, où allez-vous? Eh bien mes amis, comme d'habitude, comme chaque jour depuis des dizaines d'années, je me rends au temple pour prier. Vous savez, aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais manqué une seule prière. Oh, Rabbi Jacob, comme Dieu doit être content de vous, comme il va vous bénir en retour de tant de fidélité. Rabbi Jacob est heureux d'entendre ces compliments qui lui vont droit au cœur. Et peu après, sur le pas de sa porte, il se redresse, ses épaules s'élargissent, sa tête se dresse vers le ciel. Rabbi Jacob est fier. Rabbi Jacob est orgueilleux. « Oh, Rabbi Jacob, vous m'avez l'air bien pâle et peut-être même un peu amaigri. Que se passe-t-il, Rabbi Jacob ?»« Eh bien, mes enfants, vous le savez, d'habitude, les autres pharisiens jeûnent une fois par semaine, et moi, pour mon Dieu, eh bien, je me prive de nourriture 2 jours par semaine. » Oh, Rabbi Jacob, 2 jours par semaine, vous jeûnez. Dieu doit être content de vous, comme Dieu va vous bénir, comme il doit vous aimer pour tous ses actes religieux. Rabbi Jacob est heureux, il est content, tous ces gens qui le flattent le mettent de bonne humeur, et peu après, il entreprend sa marche vers le temple. À chaque pas, on entend un bruit qui vient de sa ceinture, gling, 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 gling. En effet, attaché à sa ceinture, il a un petit sac de cuir, et dans ce petit sac, de nombreuses pièces d'or s'entrechoquent. Car non seulement Rabbi Jacob prie chaque jour au temple, jeûne plusieurs fois par semaine, mais en plus, Rabbi Jacob est généreux. Oui, chaque jour, il donne au temple la dîme. Lorsqu'il est à l'entrée du temple, il aime faire tinter les pièces d'or dans sa main, les jetant avec un grand geste dans le coffre destiné à recueillir les offrandes. Cling, 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 les gens s'émerveillent. Ô Rabbi Jacob, encore aujourd'hui, vous donnez tout cela. Ô Rabbi Jacob, comme vous êtes généreux. Rabbi Jacob, comme Dieu doit être content de vous. Rabbi Jacob, comme il va vous bénir pour tant de générosité. Rabbi Jacob est fier de lui. Oui, les gens ont remarqué sa piété. Ils ont remarqué ses actes religieux et ça le remplit de joie. Et maintenant, il s'avance vers l'intérieur du temple pour prier. Pourquoi vous souriez? C'est un homme extraordinaire. Les fêtes parlent d'eux-mêmes. Il ne faisait que des choses bien et même plus. Croyons-nous vraiment que Dieu est aussi impressionné par sa générosité, par ses nombreux jeûnes et ses belles prières que les gens qui l'entouraient? La réalité. Dès le début de son ministère, Jésus a mis en garde ses auditeurs par rapport aux pharisiens et aux scribes qui étaient un petit peu dans le sillage de ces pharisiens. Déjà Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait au bord du Jourdain, a eu des propos très virulents à l'égard de ces pharisiens. Écoutez plutôt. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Dans le sermon sur la montagne, Jésus déclare, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Et Jésus a averti les 12 un peu plus tard, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Parce que chez Rabbi Jacob, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Nous connaissons bien aussi, sinon vous le lirez cet après-midi, Matthieu chapitre 23, où Jésus fustige l'esprit pharisien. Le problème de ce pharisien, c'est qu'il se compare aux autres hommes et aux autres croyants pour mesurer la qualité de sa foi et de sa spiritualité. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, etc., et comme ce publicain. Le problème du pharisaïsme est un problème d'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est le caractère d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité et affecte le plus souvent par intérêt des opinions, des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas réellement. Jésus disait justement dans Matthieu chapitre 23, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. » Et cette courte phrase a été souvent une flèche dans mon cœur de prédicateur. Parce que, c'est vrai, ça n'est pas facile d'être de ce côté de ce pupitre, mais c'est encore plus difficile de se dire, ce que je vais enseigner à mes frères et sœurs, est-ce que je le pratique ? Dans une obéissance de cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et là, eh bien, c'est vrai que chaque fois que le Seigneur m'appelle à prendre la parole pour un enseignement ou une prédication, il y a un travail dans mon cœur et dans mon âme. Tu vas leur dire ceci, cela, et toi, est-ce que tu es comme les pharisiens qui disent et ne font pas? C'est bien sûr, on va le voir, un problème de propre justice. Parce que ce pharisien dont il est question dans la parabole de Jésus est persuadé d'être meilleur que les autres. Un autre pharisien a dit ceci, c'est à croire que c'est vrai. Si il n'y avait dans le monde que 30 hommes religieux comme Abraham, lui et son fils en feraient partie tous les deux. S'il n'y avait que deux, ce serait lui et son fils, et s'il n'y en avait qu'un, ce serait lui-même. Impressionnant comme déclaration. Ce pharisien méprisait ce publicain qui était monté à peu près en même temps que lui que dans le temple. Il se servait des autres comme norme pour déterminer ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Et sa référence est de se mesurer aux autres. Et maintenant, c'est un choc dans ma vie. Parce que quelle est ma norme de référence, ma mesure de référence, ma règle pour déterminer où j'en suis dans ma vie chrétienne et dans ma spiritualité? Et nous tombons tellement facilement dans le travers de nous dire que quand même nous sommes de bons chrétiens, que parce que nous souscrivons à la bonne doctrine, parce que nous lisons des livres chrétiens, parce que nous participons à une église, et parce que dans cette église, il y a plein de frères et sœurs qui sont moins bons que moi. À l'Institut biblique ou à l'école biblique, on avait un prof, Émile Gaulet, pour ceux qui s'en souviennent, il est maintenant près du Seigneur, et qui avait dit une phrase qui m'a poursuivi toute ma vie. Souvenez-vous qu'il y a toujours en vous un vieux pharisien qui sommeille. Combien de fois, en pensée, peut-être pas en parole, mais parfois aussi facilement en parole, je me suis comparé aux autres pour me dire que j'étais pas si mauvais que ça. Et je suis content de regarder à mes frères et sœurs en Christ pour me dire, mais oh, je suis pas pire qu'eux quand même. Combien souvent je dénonce le mauvais comportement de tel ou tel, le manque d'engagement pour le Seigneur de Pierre, Paul et Jacques, pour satisfaire ma propre justice. Combien de fois je suis tombé dans le piège de donner une bonne apparence pour cacher la réalité de mon cœur. Jerry Bridge, dans un livre intitulé « Vivre sous la grâce », dit ceci, « Il y a un pharisaïsme chrétien, nous tombons facilement dans ce travers, dès que nous souscrivons à une bonne doctrine, que nous lisons de bons livres chrétiens, que nous pratiquons les exercices spirituels d'un chrétien consacré, ou que nous sommes impliqués dans une forme ou une autre de service chrétien. » Parce que toutes ces choses peuvent nous amener, finalement, un trait de comparaison par rapport à mes autres frères et sœurs en Christ. Et dans ce sens-là, nous avons tendance à être des propres justes. D'abord, dès que nous nous comparons au monde ambiant qui étale son immoralité flagrante, sa malhonnêteté, sa cupidité, sa violence, nous sommes outrés en tant que chrétiens, mais à juste titre, par le comportement homosexuel, la pratique de l'avortement, la pornographie. Nous avons tendance, devant ces situations, à gonfler un peu notre propre justice parce que nous ne sommes pas coupables de ces péchés grossiers. Mais notre problème de disciples de Christ provient du fait que nous avons tendance à limiter le péché à ses formes les plus grossières et visibles, péchés dans lesquels nous ne tombons généralement pas. Quand nous évoquons le péché, nous le réduisons à l'immoralité sexuelle, au mensonge, à l'ivrognerie, au vol, au meurtre, etc. Et nous nous considérons comme purs et bons par rapport à ceux qui commettent de telles choses. Toutefois, Nous sommes tentés de plonger dans le pharisaïsme quand nous cédons au péché subtil. Et c'est là que les difficultés commencent. On pourrait dire que les péchés subtils sont les péchés des gens bien. Nous les commettons de façon habituelle, sans risquer de perdre notre place d'ancien ou de pasteur, ou de moniteur d'école du dimanche, ou d'animateur de groupe de prière ou d'études bibliques, d'ouvrier du Seigneur, ou même de membre de l'Église. Alors, je prends quelques exemples. La tendance à juger mon frère ou mon prochain, à le critiquer, le dénigrer, le calomnier, à médire à son sujet. C'est tellement courant pour des gens bien comme nous. Le commérage qui se plaît à souligner les faiblesses et les manquements d'autrui, le ressentiment, l'amertume, le refus de pardonner, l'impatience, la susceptibilité, et la liste pourrait être allongée. Des péchés subtils dans lesquels nous tombons parfois. Mais avec un esprit pharisien, on essaye de sauvegarder notre propre justice. Nous oublions trop souvent que tout péché attriste le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, Éphésiens 4:30. On ne va pas commencer, nous chrétiens évangéliques, à faire une classification des péchés, comme dans le catholicisme, avec les péchés véniels et les péchés mortels. Le péché est toujours le péché. Si ces prétendus petits péchés ne nous attristent plus, nous sommes atteints par le syndrome du pharisien. Et notre propre justice nous rend aveugles par rapport à ces choses. Et c'est grave parce que c'est le péché. Vous vous souvenez de la citation de Jésus ? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de l'autre. Je l'ai dit, le pharisien de la parabole se comparait au reste des hommes, on pourrait dire le monde, et aux publicains qui priaient à côté de lui. Et il étalait tout ce qui frappe les regards. On se souvient de cette parole de l'Ancien Testament qui dit ceci, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » La comparaison avec les autres frères et sœurs en Christ ou avec mon prochain pour évaluer ma vie chrétienne n'est pas la bonne méthode. La mesure étalon de notre évaluation est imparfaite et insuffisante. Quel est le résultat pour ce pharisien ? Il est ressorti du temple avec sa propre justice, mais pas justifié par Dieu. Il demeure couvert par les nombreux péchés dont il niait l'existence. Tournons-nous maintenant vers le publicain. Et nous allons comprendre là la vraie mesure qui peut nous permettre, si c'est possible de le faire, d'évaluer notre vie chrétienne et notre spiritualité. La condition du publicain était difficile en Israël. C'était des gens méprisés et haïs par le peuple, parce qu'il collaborait avec les Romains. Mais nous connaissons au moins deux publicains mentionnés dans les évangiles. Il y en a peut-être plus. Matthieu, l'un des disciples du Seigneur, et Zachée. Et Jésus choisit en Matthieu l'un de ses publicains pour en faire l'un des 12 apôtres. Et puis généralement, les publicains étaient associés aux gens de mauvaise vie, aux voleurs, aux prostituées, à tous les gens de mauvaise vie. Et ce qui est impressionnant quand on lit l'Évangile, c'est que Jésus ne voyait pas d'obstacle, lui, le Fils de Dieu, à frayer avec les publicains et même à manger avec eux. Ce qu'un pharisien n'aurait jamais fait, puisque, bien sûr, ils ont reproché à Jésus d'aller chez Lévi, Matthieu, manger. Les Juifs critiquaient Jésus parce qu'il fréquentait des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Et c'est en réaction à ces critiques que Jésus les a entendus, a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et beaucoup de ces gens-là sont venus vers Jésus pour l'écouter. Mais pas beaucoup de pharisiens. Pas beaucoup de pharisiens. Au verset 13, nous avons lu, « Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Dans le cœur de cet homme, il y avait un sentiment d'indignité complète par rapport à Dieu, un sentiment de culpabilité le plus profond. Il était complètement dégoûté de sa vie. Il ressentait toute l'horreur et tout l'effroi de son péché, la flétrissure et la déchéance de son âme. Le tient à distance de la sainteté de Dieu. Il n'ose pas s'approcher du lieu saint. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Et il ne considère pas seulement qu'il a commis des péchés, parce qu'il dit « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il ressent les mêmes sentiments que David. Quand il écrit dans le psaume 51 « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il arrive à la même conclusion que l'apôtre Paul. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Dans cet état, le publicain reconnaissait n'avoir que l'alternative suivante, ou bien la colère de Dieu continuait de reposer sur lui, ou bien la miséricorde divine lui permettait d'être arraché au jugement éternel. Le publicain, c'est un candidat à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Le pharisien n'en avait pas besoin. Il se couvrait de sa propre justice. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, psaume 34, 18. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, psaume 51, 17. Quelqu'un a écrit ceci en commentaire de ce passage. Le publicain, lui, ne vient pas au temple pour trouver en Dieu un témoin de sa réussite, mais un confident de sa misère. Et un autre auteur allemand a écrit ceci, « La pensée que d'autres pêchent ne console pas le publicain. En cet instant, il est le pécheur, le seul pécheur devant Dieu, celui qui ne peut pas se racheter, que le Seigneur seul peut sauver dans sa miséricorde. » Et oui, la norme du publicain, et c'est la différence entre lui et le pharisien, c'est que le pharisien, dans sa relation avec Dieu, c'est une affaire de principe, Pour le publicain, c'est une affaire de cœur. Le mètre, 100 centimètres, est une mesure absolue. Aujourd'hui, il est défini par la vitesse de la lumière dans le vide en une fraction de seconde. Mais en termes de mesure, c'est une référence absolue. Le pharisien emploie une norme imprécise, relative, fluctuante, sa propre justice face au reste des hommes. Le publicain, lui, emploie une norme absolue, la justice et la sainteté de Dieu. Et il ne fait pas le poids. Devant cette norme-là, toute notre propre justice s'effondre. Nous sommes comme Ésaïe qui disait, nous sommes tous comme des impurs, et notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. En regardant le cœur de cet homme croulant sous le poids de son péché, implorant la miséricorde céleste, Dieu le déclare juste en vertu de la repentance et de la foi. C'est pourquoi le texte précise à propos du publicain. Je vous lui dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. La norme absolue de la justice et de la sainteté de Dieu, nous pousse à l'humiliation et la repentance devant lui. En adoptant cette attitude, je l'ai dit tout à l'heure, nous devenons des candidats à la grâce et à la miséricorde de Dieu, au pardon, c'est-à-dire à la pleine justification qui nous est accordée par le sang de la croix. Si j'ai besoin de la grâce initiale de Dieu au moment de ma nouvelle naissance ou de ma conversion, qui fait de moi un juste, chers frères et sœurs, j'ai besoin de la grâce permanente du Seigneur, jour après jour, à cause des péchés occasionnels que je commets. Chaque jour, j'ai besoin de mesurer mes pensées, mes actes, mes paroles, à la norme de la sainteté et de la justice de Dieu, et pas autre chose. Si je me compare aux autres hommes, ou à mes frères et sœurs en Christ, je tombe dans le piège du pharisaïsme. Et je répète, il y a en nous un vieux pharisien qui sommeille et qui n'attend que le moment de se réveiller. Parce que c'est dans notre nature. Jésus conclut la parabole par ces mots, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Et on peut imaginer ce pharisien avec tout l'étalage des vertus qu'il applique, qui ressort abaissé, et que ce pauvre publicain qui se traînait par terre est élevé aux yeux de Dieu. Mais c'est ça le miracle de la grâce de Dieu. Aux yeux du Seigneur, le pharisien avec toutes ses prétentions et sa propre justice est abaissé. Par contre, le publicain, humble et repentant, est élevé devant son Dieu. Dieu nous libère et nous affranchit de tout ce qui ressemble à l'esprit pharisien. En conclusion, je lis deux phrases de ce qu'un pasteur a dit dans une prédication et qui peut nous faire du bien. Et nous placer au niveau où nous devons l'être devant Dieu et vis-à-vis de nos frères et sœurs en Christ. Nos églises locales devraient ressembler à un groupe de publicains et de publicaines, des gens qui ne sont pas meilleurs que les autres, qui ont des blessures et des fragilités et qui le savent. Ils se retrouveront pour ouvrir leur cœur, pour se dire leurs interrogations profondes. Personne n'est meilleur qu'un autre, mais ils savent qu'ils ont besoin les uns des autres pour se rappeler l'amour de Dieu pour chacun. Nous nous rassemblons parce que nous croyons en Dieu, mais en même temps, nous ne sommes pas bien fiers de nous, de nos maladresses, de nos infirmités. Nous avons besoin des autres pour nous aider à comprendre la grâce et la miséricorde du Seigneur. Et bien que Dieu veuille qu'il en soit ainsi, et que nous soyons débarrassés de tout esprit pharisaïque pour adopter l'esprit du publicain qui était humble devant son Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.